RFI, grand reportage.
Ici, il y avait un mur et plusieurs maisons devant. Après ces maisons, il y avait une rue, un autre pâté de maisons et plus loin la mer. Donc la mer était loin, quasiment à 800 mètres. Il fallait marcher pour y arriver et on était essoufflé après la marche. Donc là, où vous voyez la mer aujourd'hui, tout ça, c'était des maisons.
200 mètres par frente du mar, aqui era tudo casa.
C'est une cité balnéaire menacée de disparaître sous les eaux, Atafona. Au Brésil, les catastrophes climatiques se multiplient entre érosion côtière et pluies diluviennes meurtrières. Au nord de l'état de Rio de Janeiro, Atafona donc, et la montée des eaux. Ailleurs, dans la région montagneuse de ce même état, les habitants redoutent les pluies torrentielles. En 2011, elles ont fait près de 900 morts. En 2022, la ville de Petrópolis a souffert d'une inondation record, causant la mort de plus de 300 habitants. Des catastrophes que l'on dit naturelles, mais qui sont pourtant liées au réchauffement climatique et à l'activité humaine. Brésil, les tragédies climatiques se multiplient. C'est un grand reportage de Sarah Cozzolino.
À 400 km au nord des côtes de Rio de Janeiro, Atafona est un village balnéaire victime de la montée du niveau de la mer depuis près de 50 ans. Ces dernières années, l'océan grignote entre 5 et 7 mètres de plage par an. Quand la maison de João Elias Peixoto a commencé à être menacée par l'érosion côtière, il a décidé de déménager.
En février 2022,
l'océan est venu jusqu'ici et a détruit notre mur, notre réservoir d'eau, le système électrique et ce petit appartement annexe que vous voyez en hauteur là-bas avec une cuisine, un séjour, une salle de bain. J'ai des photos qui datent de l'anniversaire de ma fille et les 18 ans de Maria Fernanda. Le 26 février, la maison était encore en parfait état. Puis après ça, les coefficients de marée sont montés, je m'y étais préparé, mais 15 jours après avoir quitté les lieux, la mer a mangé une partie de la maison. C'était impressionnant. On aurait dit que la mer avait attendu qu'on parte pour pouvoir prendre possession des lieux et tout détruire.
João Elias a 50 ans, le même âge que cette maison de famille construite par son grand-père. Dès le début de la pandémie, il s'était installé dans cette résidence secondaire et avait assisté, malgré lui, à l'avancée de l'océan.
C'est assez paradoxal. Partout au Brésil, on paierait cher pour avoir une vue sur la mer. Ici, c'est le seul endroit où on ne veut surtout pas avoir une vue sur la mer, parce que c'est l'assurance de perdre sa maison, comme ce que je suis en train de vivre. Cette maison a plus de 8 chambres, c'est une grande maison bien bâtie.
Uma casa grande, uma casa bem estruturada.
Il nous fait visiter ce qu'il reste encore, des pièces vides aux fenêtres murées.
Voici ma chambre. On a dû bloquer l'accès aux fenêtres pour éviter que les personnes n'entrent. Il y a déjà eu quelques vols, quelques meubles, une clim, des câbles.
Il a maintenant pour projet de construire une nouvelle maison à Atafona, cette fois-ci beaucoup plus loin de la plage.
Je vais réutiliser beaucoup de choses d'ici pour la maison que je suis en train de construire. C'est une façon de maintenir la mémoire de la famille. Des portes, des fenêtres, des escaliers, pour ne pas oublier.
Quelques rues plus loin, même spectacle. Dans le sable, les décombres d'un dernier bâtiment submergé par la marée, des barres d'acier qui résistent encore à la rouille et un mur qui vient d'être troué. C'est celui de Sonia Ferreira.
Je suis enfin arrivée à une prise de conscience, parce qu'on oscille entre la raison et l'émotion, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on doit faire. Je retardais toujours cette décision en me disant que la mer n'arriverait pas jusqu'ici, parce que parfois elle recule un peu comme aujourd'hui. Mais non, elle revient ensuite de plus belle, quand on ne s'y attend pas.
Sonia a fini par se résoudre à partir à la demande de sa fille, inquiète de la savoir dans cette maison qui menace de s'effondrer.
Ne faites pas attention au bazar parce que je suis en plein déménagement. Hein?
plusieurs facteurs, explique l'érosion record d'Atafona qui fait partie des 4% du littoral mondial dont la montée des eaux dépasse les 5 mètres par an. Pour Sonia, il n'y a qu'un coupable.
Le responsable de tout ça, c'est l'homme, c'est nous. Avec tout ce qu'on fait qui dégrade la planète, tout ça, ça se répercute ici, il n'y a aucun doute. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui accélèrent ce phénomène à Atafona. Par exemple, la perte de débit du fleuve Paraíba. Quand j'étais enfant, c'était un fleuve puissant, un beau fleuve majestueux. Aujourd'hui, c'est une petite rivière mal en point. Elle n'a plus la force de ramener les sédiments, c'est-à-dire de pousser le sable pour entretenir la plage. Et c'est pour ça qu'elle disparaît.
Comme les autres victimes de l'érosion de la plage d'Atafona, Sonia se sent abandonnée par la mairie de San Juan de Barra, dont dépend le petit village. Depuis 50 ans, la municipalité n'a pris aucune mesure de prévention pour lutter contre le phénomène. Selon Marcela Toledo, chargée de l'environnement, les pouvoirs publics ne peuvent rien faire contre la perte de débit du fleuve Paraíba, car les deux tiers de son cours ont été captés par les villes de Rio de Janeiro et São Paulo pour alimenter les métropoles en eau et en électricité.
Diante de ce fait,
c'est à cause de ça que le phénomène d'érosion s'aggrave, mais la municipalité étudie des projets pour freiner le problème. Nous sommes face à 3 propositions. Construire une digue, installer des sacs de sable à l'horizontale ou encore l'engraissement artificiel de la plage grâce à une barrière de roche. Ces 3 propositions ont été envoyées à l'Institut environnemental, l'INEA. Nous avons créé une commission spécifique à la mairie pour ces questions d'érosion côtière et parallèlement, nous sommes à la recherche de fonds pour financer les études qui pourront prouver l'efficacité de ces projets.
Si la situation d'Atafona a peu d'espoir de changer dans les prochaines années, certains de ses habitants parviennent à en tirer du positif. Un tourne-disque passe de vieux vinyles de musique brésilienne. Nous sommes au Barracão, un bar dans une petite maison originale où les débris rejetés par la mer trouvent une seconde vie et sont transformés en œuvres d'art par le patron des lieux. On y retrouve Paul Blanquio. Il fait sa thèse en anthropologie de la catastrophe.
Je suis arrivé ici à Atafona parce que la catastrophe naturelle à Atafona, c'est une catastrophe naturelle très particulière parce qu'elle est lente. En général, on a dans le sens, dans la charge étymologique de la catastrophe, tout le sens de la soudaineté, de la rapidité. Or ici, c'est une catastrophe qui est très lente, parce que ça fait 40 ans, 50 ans que le phénomène d'érosion apparaît. Mais ici, le phénomène d'érosion, depuis 10-15 ans, s'accélère. Et aujourd'hui, la mer avance de 5 à 7 mètres par an. Donc la ville est en train de disparaître totalement. En l'espace de 20-30 ans, tout Atafona aura disparu, ça n'existera plus. Ici, l'objectif, c'est de travailler avec les gens pour savoir jusqu'à quel point ils sont affectés par la catastrophe. Et moi, mon travail, c'est de travailler avec les gens qui sont migrants, réfugiés climatiques et qui sont obligés de se déplacer à cause du changement climatique. L'ONU est en train de discuter d'un statut pour savoir jusqu'à quel point on peut considérer ces gens-là comme réfugiés. Donc mon travail, en fait, c'est de discuter entre le droit international et l'anthropologie environnementale pour savoir jusqu'à quel point ces gens peuvent être aidés dans leur existence et dans leur vie de délocaliser environnementaux.
À 4 heures de route d'Atafona, dans la région Serrana, la région montagneuse de l'état de Rio, nous rencontrons Roberta Lima. Elle a quitté Atafona pour s'installer à Nova Friburgo en 2008. Mais 3 ans plus tard, elle a perdu 6 membres de sa famille lors des pluies torrentielles de janvier 2011 qui ont fait plus de 900 morts dans la région.
Chaque fois que ma mère m'appelait, elle me disait toujours « Fais attention Roberta, le niveau de la mer est en train de monter. Il paraît que la mer va submerger la ville. » Sauf que je suis partie de là-bas pour vivre cette tragédie ici et regarder combien de personnes j'ai perdues ici.
Ces inondations sont restées dans les mémoires des Brésiliens comme la pire tragédie climatique du pays. À Nova Friburgo, ville la plus gravement touchée, près de 240 mm de pluie sont tombés en 5 heures, entraînant le débordement des rivières, des coulées de boue et des glissements de terrain qui ont emporté sur leur passage arbres, maisons, voitures. De sa fenêtre, Roberta peut encore voir les traces de la catastrophe survenue 11 ans plus tôt dans le quartier de Corrego d'Antas.
Regardez là-haut, la végétation sans arbres. Tout ça, c'était que de la boue. Tout ce pan de terre est descendu dans la vallée.
À l'époque, les habitants se sentaient en sécurité dans leur quartier. Ils ignoraient que les montagnes verdoyantes au-dessus de leur tête se composaient en réalité de fines couches de terre prêtes à se détacher des blocs de granit une fois qu'elles seraient gorgées d'eau. Aujourd'hui, la plupart des habitants sont angoissés dès qu'il se met à pleuvoir.
Personne ne dort. Quand le ciel s'assombrit, qu'on entend des éclairs, des orages, personne n'arrive à dormir ni à garder son calme. Parce que est-ce qu'on est vraiment en sécurité ici? Je ne sais pas. En 2011, il n'y a pas eu de riches, de pauvres, de blancs, de noirs, d'enfants, de vieux. Il n'y a pas eu de choix. C'était ceux qui étaient sur le chemin des coulées. La maison de ma tante était neuve, elle a été construite avec des ingénieurs, des architectes, tout a été fait selon les règles, avec les meilleurs matériaux, donc on ne peut pas comprendre.
Les habitants décrivent un spectacle de guerre, plus de routes, plus de communication, plus d'informations, plus d'électricité, plus d'eau.
La tragédie n'est pas encore terminée aujourd'hui, parce que nous n'avons pas totalement récupéré notre quartier. Les rivières n'ont pas été nettoyées comme elles auraient dû l'être. La vie n'est jamais redevenue comme avant. C'est notre plus grande perte. Les vies qui sont parties et notre dignité aussi. Parce que pour nous, c'est toujours la même histoire. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Parce que si on a besoin d'un pompier, il lui faudra une route pour passer. Pour n'importe quoi, s'il n'y a pas d'accès, on est isolé. Donc vous ne pouvez compter que sur vous et votre voisin.
Dans le centre de contrôle du département de protection civile de Nova Friburgo, Leonardo Freire, géographe, nous montre une vue aérienne prise juste après la tragédie de 2011.
Nous avons enregistré plus de 2700 cicatrices, comme on les appelle. Ce sont ces marques qui restent dans les montagnes après les glissements de terrain. Ici, notre territoire est composé de pentes très raides avec un fort degré d'inclinaison. Et nous sommes dans une région où il pleut beaucoup en été. Et il faut ajouter à l'inclinaison et la pluie la question de l'occupation urbaine.
Et aussi, nous avons la question des occupations urbaines, des constructions.
L'équipe de Leonardo s'apprête à installer des outils de calcul de l'humidité des sols dans la région. Evie Gomez est le chef de la protection civile.
Ce sont des sondes qui vont nous permettre de vérifier la quantité que les sols arrivent à absorber. Et selon les résultats, on pourra émettre une alerte au glissement de terrain pour la population.
La tragédie de 2011 a marqué un tournant dans la prise en compte et la gestion des catastrophes naturelles au Brésil. Par exemple, dans les zones à risque, en cas d'alerte, des sirènes sont actionnées et les habitants peuvent se diriger vers des abris. Mais ces avancées ne sont pas suffisantes, selon Sergio Portel, chercheur et spécialiste des risques climatiques.
Le fait est que l'organisation de ces villes n'arrive pas à suivre la rapidité du changement climatique. Elles ne se rendent pas compte de la quantité de modifications nécessaires dans tous les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, ces villes sont organisées autour de secteurs totalement séparés les uns des autres, ce qui ne permet pas la mise en place d'une organisation intelligente.
Qui ne permet pas cette organisation qui doit être intelligente.
À 70 km de Nova Friburgo, dans la même région montagneuse, une nouvelle tragédie climatique a touché la ville de Petropolis le 15 février dernier. Près de 300 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues. De nouveaux records de pluviométrie ont été atteints avec jusqu'à 270 mm de précipitations enregistrées en 2h30. Les logements situés dans les montagnes ont été emportés par des glissements de terrain et le centre historique a été gravement inondé. Mais dans cette ancienne ville impériale, les risques liés aux pluies sont loin d'être une nouveauté.
Depuis que la presse existe, nous avons un historique des inondations. L'empereur lui-même avait écrit dans ses journaux que la rivière Palatine débordait. Donc ce sont des inondations récurrentes. Sans vouloir normaliser les désastres, mais c'est quelque chose de commun dans la région. Un indice pluviométrique très élevé et une forte inclinaison des pentes.
Patricia Souza Lima est professeure d'histoire, spécialiste de Petropolis. Elle explique qu'au moment de sa planification par le major Köhler au XIXe siècle, la ville avait été pensée en fonction des spécificités de son territoire.
Il y a certaines règles de base qui sont encore jugées comme excellentes aujourd'hui, bien que son plan soit limité aux connaissances que nous avions à l'époque. Deux questions notamment, le fait qu'il faut prendre en compte les rivières qui ont eu un grand rôle le jour de la tragédie, mais aussi le fait que, dans ses plans d'habitation, Keller interdisait l'occupation des flancs de montagne et prévoyait une certaine distance par rapport aux rivières. On ne pouvait pas construire trop près.
Mais Petropolis n'a pas su se tenir à ces restrictions. Avant la catastrophe du mois de février, plus de 17 000 logements étaient considérés en zone à risque et désormais ce chiffre sera revu à la hausse. Patricia Lima fait partie d'un réseau de chercheurs et d'habitants qui s'est constitué 11 ans après la tragédie de Nova Friburgo et quelques jours avant celle de Petropolis. Le but est d'impliquer la société civile dans la prévention des désastres.
Ce n'est pas le moment de croiser les bras et c'est justement pour ça que ce réseau a été créé. Tout ce qu'on peut faire en termes de réduction et de prévention des risques, c'est maintenant. Le problème, c'est qu'à Petropolis, beaucoup se tournent les pouces en attendant la pluie. Sauf que la pluie va revenir. C'est un phénomène récurrent. Mais on ne peut pas ne rien faire face à ces événements extrêmes. Il faut qu'on accélère les questions de logements sociaux, par exemple.
Les quartiers les plus durement touchés ont été les quartiers les plus pauvres et notamment les favelas construites à flanc de montagne. La favela de Villa Felipe y a perdu près de 40 habitants.
Ça a été très difficile parce qu'on connaît tout le monde ici dans le quartier et il y a 3 coulées de boue qui sont descendues de cette montagne. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé.
Viviane Furtado a perdu sa maison lors de la tragédie. Aujourd'hui, elle habite dans des logements sociaux dans un autre quartier.
Moi, j'aimerais qu'ils réparent les dégâts pour qu'on puisse revenir ici. Parce que moi, j'ai 32 ans, je suis née et j'ai grandi dans ce quartier. Sauf que pour revenir, il faut qu'ils nettoient le quartier. On ne peut pas revenir comme ça. On aurait dit qu'un énorme barrage avait lâché, vu la quantité de boue qui est entrée dans les maisons. Dans le centre, dans les rues touristiques, ils font quelque chose. Mais ici, il n'y a même plus de machines, plus rien. Alors qu'il y a beaucoup d'habitants et on a perdu beaucoup de gens.
Le 20 mars, un mois après la tragédie, de nouvelles pluies torrentielles ont dévasté le quartier. Milena Pagano, directrice de l'association des habitants de Villa Felipe, appelle les pouvoirs publics à agir.
Même ceux qui sont restés dans le quartier ne se sentent plus en sécurité. On aimerait que les autorités, comme la protection civile par exemple, viennent, fassent une réunion avec les habitants pour expliquer ce qui va être fait. Parce qu'il y a eu des glissements de terrain et ils peuvent encore se produire. C'est tout ce qu'on sait. En face de chez moi, il y a eu une coulée de boue et mon voisin devrait faire un mur de soutien pour lutter contre les éboulements. Sauf que c'est très cher et les gens ici n'ont pas d'argent.
Si les favelas sont construites dans des zones à risque, c'est parce que les habitants n'ont pas le choix, selon Milena. Le Centre de défense des droits de l'homme de Petropolis, une ONG dirigée par Carla Di Carvalho, fait valoir les droits des plus démunis depuis 40 ans.
Il faut faire un contrôle et verbaliser, mais il faut surtout qu'il y ait des politiques publiques pour que ces personnes aient un logement digne. On ne peut pas simplement dire que certaines personnes ne peuvent pas habiter dans certains endroits et penser qu'elles vont disparaître ou s'évaporer. Elles n'habiteront pas en zone de risque si nous construisons avec elles des alternatives de logements sûrs, parce que les gens doivent bien habiter quelque part.
Selon Carla, les plus pauvres sont toujours les premiers accusés.
Dans la ville de Petropolis, les zones de protection environnementale existent pour empêcher les pauvres d'habiter dans certains endroits. Et de nombreux terrains que nous, Centre de défense des droits de l'homme, nous proposons au conseil d'habitation pour construire des logements, eh bien, n'ont pas pu être attribués à cause de cet argument environnemental.
Depuis les deux dernières tragédies, des centaines de personnes vivent dans des conditions précaires. Le temps presse pour régler durablement cette question car la saison des pluies commence au mois de novembre.
Brésil, les tragédies climatiques se multiplient. Un grand reportage de Sarah Cozzolino, réalisation Eva Piedel.